Est-ce que vous vous intéressez à l'art et aux cultures différentes?
Dans ce cas-là, bienvenue à la radio Transsonore.
En collaboration avec des élèves de l'école Jeanine Emmanuel.
À nous tous, nous représentons au moins 15 pays différents.
Et on parle au moins autant de langues.
L'atelier des artistes en exil est situé dans le 2e arrondissement de Paris.
C'est un espace de 1100 m² qui accueille des artistes qui ont fui leur pays.
On va vous raconter notre visite.
Imaginez, quand vous rentrez dans la cour, il y a plein de couleurs sur les murs.
Une fois à l'intérieur, on voit des panneaux avec des langues différentes.
Anglais, français, espagnol, arabe, farsi et russe.
Des bureaux, des studios de musique, de danse et de théâtre.
Des ateliers avec des peintures et des sculptures.
La salle de céramique et la salle de photographie.
En arrivant, on rencontre Laura. Elle est accueillante. C'est la coordinatrice générale.
Elle gère l'atelier pour que tout se passe bien pour les artistes.
Elle nous fait visiter l'atelier avec Jeff et Ini. Jeff est humoriste et Ini travaille dans les bureaux.
Avec eux, on voit les différentes disciplines artistiques.
Ils nous expliquent que ce n'est pas simplement un lieu de création.
C'est aussi un lieu où les artistes sont chez eux, se sentent libres et en sécurité.
L'atelier aide aussi les artistes à s'installer en France, en les accompagnant pour leurs papiers et leur logement.
L'atelier offre aussi des cours de français pour avoir une langue commune.
Nous avons interviewé Laura, c'est la coordonnatrice générale.
Elle est très bienveillante et intéressante.
Elle a beaucoup voyagé, de la jungle en Amérique latine à l'Asie.
Ça lui a donné beaucoup d'expérience pour gérer l'atelier et aider les artistes à s'intégrer en France.
Vous écoutez un podcast Transsonore. Transsonore, la transition et l'insertion par le son.
Bienvenue à l'atelier des artistes. Alors là, on a une petite salle. Cette zone-là, c'est plutôt la partie qui s'occupe des situations d'urgence. En 2021, en fait, on a créé une première hotline pour les artistes qui étaient à Kaboul. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Et donc, les artistes étaient menacés parfois de mort. Donc, en fait, il y a eu beaucoup d'artistes qui étaient à Kaboul et qui étaient en danger imminent. Donc, l'atelier a travaillé avec le ministère de la Culture pour faire des listes d'artistes qui étaient en danger à Kaboul. Donc, on a dû faire des listes, les aider pour prendre des vols humanitaires. Et une fois arrivés en France, c'est la hotline ici qui s'est occupée de tout l'aspect social, juridique, demande d'asile, trouver des logements. Et aussi le pôle urgence travaille avec des psychologues. Parfois, si des artistes ont besoin, on fait aussi des visios avec des psychologues dans la langue natale des artistes pour pouvoir aussi avoir un suivi psychologique. Ensuite, on a créé la même chose pour les Birmans. Il y a eu un coup d'État en Birmanie avec aussi des artistes en danger. Et ensuite, avec la guerre Ukraine et Russie, on a aussi deux hotlines pour ces pays-là. Sachant qu'il y a aussi une personne qui s'occupe de tous les autres pays qui ne sont pas dans les hotlines. Donc, elle va traiter toutes les autres demandes d'artistes. Ok, on va continuer. Alors, ici, on a un premier atelier d'artistes. Donc en général, on a environ 4 personnes par atelier. Vous pouvez rentrer, allez-y. Donc là, on a 4 artistes. On essaye de faire en sorte de mélanger des hommes, des femmes, des pays différents, des pratiques différentes. Voilà, donc ici, par exemple, on a Linga qui vient du Congo. Il travaille beaucoup sur la thématique des enfants soldats. Parce que, voilà, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des pays où les enfants, très jeunes, deviennent soldats, combattent. Et donc, lui, il est touché par cette thématique. Donc, il travaille beaucoup sur ça, sur l'enfance, les enfants soldats. Ici, on a une artiste palestinienne qui s'appelle Rim. Elle fait beaucoup d'abstrait, un peu un travail sur les cauchemars. Vous savez ce que c'est que cauchemar en français ? Voilà. On a D27 qui vient de Angola. Elle travaille beaucoup sur le départ de personnes qui viennent souvent d'Afrique, qui s'en vont en fait, qui un peu sur cette idée que l'Europe c'est super, l'Europe ça va leur donner une vie meilleure, etc. Donc il travaille beaucoup sur cette thématique-là, il travaille beaucoup sur tout ce qui est injustice. Et il a fait aussi une série qui s'appelle Les Indispensables. Et en fait, c'est une série où il montre que toutes les personnes, par exemple durant le Covid, qui étaient livreurs, qui prenaient soin des gens malades, en fait tous les métiers que nous on voit pas forcément, mais en fait, qui sont faites couverts par des personnes souvent sans papier. Et qu'en fait, c'est des personnes qui sont invisibilisées dans notre société, mais en fait, elles sont là et c'est grâce à elles que beaucoup de choses fonctionnent.
Combien d'artistes y a-t-il au total ?
Alors, d'inscrits, on a environ 800 artistes, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous là en même temps, sinon ce ne serait pas possible de gérer. Mais je pense que, disons, de manière hebdomadaire, on doit avoir à peu près 200 artistes.
Quel est le but de l'atelier ?
Le but de l'atelier, c'est de permettre à des artistes en situation d'exil qui n'ont plus accès à leur réseau professionnel, au matériel artistique, à leurs œuvres, voilà, de pouvoir en fait avoir un espace qui peut les accueillir à leur arrivée en France, leur permettre de continuer leur pratique artistique et ensuite aussi de les accompagner dans leur globalité, pas seulement sur les questions professionnelles, mais aussi sur les questions personnelles qui, du coup, sont plutôt liées à tout l'aspect social, juridique, demande d'asile, parfois accompagnement psychologique. Voilà, de vraiment les accompagner, et la langue française aussi, donc de les accompagner sur tous les aspects qui leur permettront une bonne intégration en France. Ici, c'est principalement un exil qui est lié à une raison plus ou moins, ouais, on va dire, plutôt politique, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont obligées de quitter leur pays parce qu'elles ont des idées parfois jugées trop progressistes, parfois contre leur gouvernement, parfois c'est aussi pour des faits de religion qui sont différentes, des personnes qui appartiennent à des peuples qui ne sont pas assez bien considérées dans le pays où elles sont. Parfois pour des questions d'orientation sexuelle, par exemple des personnes qui sont homosexuelles dans des pays où c'est condamné par la loi, plus ou moins sévèrement en fonction des pays. Voilà, ou même des personnes qui sont dans des situations de transidentité, qui du coup sont obligées de quitter le pays où elles sont nées, où elles ont grandi, pour tout simplement pouvoir vivre une vie normale. Donc ici, on a vraiment toutes les nationalités, tous les pays possibles et imaginables. On n'a aucune limite dans les pays qu'on accueille. On a toutes les disciplines artistiques, donc ça va vraiment des poètes aux architectes, photographes, danseurs, peintures, chanteurs. Enfin voilà, on a vraiment tous les types d'arts différents. Là, on a un autre bureau, c'est le bureau de la directrice et de la personne qui travaille avec elle. La directrice a aussi une compagnie de théâtre. Et aussi, elle s'occupe des artistes qui font du théâtre, du spectacle vivant. Donc voilà, c'est un autre bureau. Et c'est le dernier bureau de l'association. Après, tout le reste, c'est des ateliers d'artistes.
Merci. Quelle est l'histoire de l'atelier ?
Alors, l'atelier, il a été créé en 2017 par Judith Depaul, qui est directrice, et Ariel Sipel, qui est l'ancien co-directeur. À la base, Ariel dirigeait un théâtre qui était en faillite, qui s'appelait Confluence, et Judith travaillait avec lui sur des projets. Et en fait, ils s'étaient rendu compte que... ils accueillaient beaucoup d'artistes syriens, mais il n'y avait pas vraiment de solution pour ces personnes qui étaient en situation d'exil. Et en fait, ils ont commencé à accompagner ces personnes-là, et donc ils se sont dit, il n'y a rien, il n'y a pas de solution pour les artistes en exil. Donc ils ont réfléchi à une solution, et ils ont pensé à ce projet, et ils ont commencé à créer l'atelier en 2017.
D'accord. Et combien de langues parle-t-on ici ?
Je pense qu'on a autant de langues que de nationalités, et même certains pays ont plusieurs langues, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de langues différentes, notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest, où par exemple beaucoup d'artistes parlent beaucoup, beaucoup de langues. Voilà, je ne saurais pas non plus vous dire exactement combien de langues on a à l'atelier, mais il y en a beaucoup, et du coup c'est plutôt chouette, parce que ça permet aussi à des gens, ou même à l'équipe des fois, on apprend un petit peu des mots, des choses avec les artistes, et donc voilà, c'est chouette, et même... Par exemple, en fonction des pays, l'arabe n'est pas exactement le même, donc on a aussi des variantes dans la langue arabe, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de diversité.
Y a-t-il des autres ateliers de ce genre à Paris ?
Non, à Paris, je ne pense pas qu'il y ait d'autres associations qui mélangent ce côté social, exil, plus artistique. Par contre, on a créé une antenne à Marseille, donc il y a une association qui s'appelle comme ça et qui est sur Marseille aussi.
Merci. Quels sont les aspects que vous préférez ici ?
Je pense que ce que je préfère, c'est le côté très divers dans les personnes qu'on rencontre à l'atelier. Enfin, moi personnellement, j'adore rencontrer des gens qui pensent pas forcément comme moi, échanger sur des choses. Bon, bien sûr, quand on a autant de personnes dans un espace, il y a forcément des fois où c'est un peu compliqué de comprendre la façon de penser de l'autre. Il y a des choses qui sont un peu parfois compliquées, mais pour moi, c'est quand même toujours très intéressant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance de manière générale, que ce soit au sein de l'équipe ou les artistes. Et voilà, je pense que c'est l'aspect que je préfère, le côté humain que je retrouve ici dans mon travail tous les jours.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour.
On peut rentrer.
Ils sont
11. Oh là là.
Je les accompagne.
Bonjour.
Voilà.
Allez. Bienvenue.
Merci.
Bonjour. C'est le bazar, hein. C'est ça. C'est la vie artistique.
Donc là, c'est un autre atelier. Donc là, on a 4 artistes. Donc Kaveh, qui est iranien, tu veux peut-être présenter ce que tu fais, ton travail.
C'est vrai?
Oui.
Oh non.
Qu'est-ce que vous avez fait? Je ne comprends pas. Pardon.
En fait, c'est compliqué pour expliquer, mais je suis artiste plasticien. J'ai travaillé avec beaucoup de matériaux. Par exemple, à chaque fois, je travaille grand format sur toile. Et à chaque fois, je travaille comme aujourd'hui sur métal. Mais oui, je suis iranien depuis 4 ans que j'habite en France.
Et monsieur, et tous les travaux dans cette salle sont vôtres?
Non, 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 on est 5.
Ah, okay.
Ça, c'est mon place, jusqu'à là.
Oui.
Et en fait, moi, je travaille dans cet atelier avec des autres artistes internationaux. Ça veut dire on est 5, 2 Iraniens, 1 Syrie, 1 artiste russe, 1 artiste turc et qui vient de Turkménistan. Mais on travaille ensemble. À chaque fois, on est inspiré. On inspire quelque chose à nous, mais nous sommes. Nous sommes nouveaux en France. C'est pour ça qu'on est ensemble, on travaille ensemble, on fait quelque chose à chaque fois, par exemple. C'est notre vie dans cet atelier.
Merci beaucoup.
De rien.
Merci.
Bon courage.
Merci. Merci.
Bon, continue.
Là, on a une première salle de musique. Vous pouvez le formulaire en train de voir. C'est une salle donc, avec des instruments, batterie, piano, pour les artistes qui font de la musique.
Désolée, on vous interrompt en pleine répétition, c'est ça? Peut-être vous voudriez juste nous montrer ce que vous chantez?
Il n'y a pas vraiment.
Нет, трое. Нас трое. Четверо. Нарина тоже.
А я тоже.
Нарина.
Nous avons divisé notre équipe en plusieurs groupes.
Et la nôtre a interviewé Dmitri Stepanov.
C'est un artiste, musicien et réalisateur d'origine russe.
Il est très passionné et il se met tout entier dans son art.
Sa philosophie et sa vision de son métier
rendent ses projets remarquables et frappants.
Donc, quelle est votre pièce préférée de l'atelier des artistes?
La salle de la musique. Parce que comme un artiste, je suis un musicien plus que vidéo. J'ai commencé avec vidéo et c'était mon métier et j'ai gagné l'argent avec ça. Mais comme un artiste, maintenant, m'intéresse dans la musique plus que de la vidéo.
Quel instrument jouez-vous?
Je joue de la guitare. C'est mon premier instrument. Je joue la harmonica, je joue un peu piano, je fais la musique électronique aussi.
Dans ce cas, pourquoi vous avez choisi cette matière?
Cette matière, la musique, c'est la question très intéressante pour moi parce que j'ai commencé avec l'art visuel. J'ai commencé avec la photo et après j'ai commencé à faire la vidéo parce que j'ai voulu le mouvement dans mon art. J'ai choisi la musique parce que, pour moi, l'art visuel, c'est un peu de la violence de le spectateur. Mais la musique reste l'espace pour l'imagination. Tu écoutes et tu peux imaginer tout ce que tu veux. Deux personnes peuvent imaginer les choses très différentes quand ils écoutent le même morceau. C'est très important pour moi parce que quand je fais l'art, je veux rester l'espace pour l'imagination. C'est la valeur des libertés parce que tu restes l'espace pour les jeunes.
J'ai une question. Monsieur ?
Ah ouais ?
En fait, est-ce que la culture française peut-être a changé votre musique ?
C'est très intéressant. C'est la question très intéressante. En France, j'ai découvert beaucoup des artistes des années 60, comme Charles Aznavour, comme Georges Brassens, comme Jean Ferrat. Oui. Jean Ferrat, je pense.
Vous connaissez Charles Aznavour, Georges Brassens?
Moi, je connais Georges Brassens.
Ah, tu connais Georges Brassens?
Oui.
Oh, bien.
Jean Ferrat, Et beaucoup, 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 beaucoup. Edith Piaf, Mireille Mathieu, Françoise Hardy, etc., etc. Je pense que ces choses font la grande influence à moi. J'écoute beaucoup. Aussi, j'ai entendu Alain Bashung, Renaud, etc., etc. La musique plus rock.
Est-ce que vous êtes inspiré sur votre culture?
Moi, je me considère plus comme un cosmopolite. C'est pourquoi je ne peux pas dire que je m'inspire dans mon culture. J'aime bien la culture moderniste et européenne. Et bien sûr, j'aime la culture des avant-gardes, des soviétiques qui étaient libres, qui étaient la partie des périodes de la liberté dans mon pays, je pense.
Et est-ce que la France est différente de votre pays?
Oui, c'est très différent. La France est très différente de la Russie. Et la première chose est que la France est plus libre que la Russie.
Juste une question connectée. Depuis combien de temps habitez-vous à Paris?
J'ai venu en France l'octobre 2022. Après, j'ai demandé l'asile et ils m'ont envoyé à Strasbourg. Après, j'ai habité à Strasbourg pendant une année. Je suis à Paris depuis le 26 janvier.
Une petite question. Comment vous avez trouvé l'atelier?
Parce que j'ai beaucoup de connaissances artistes en Russie qui aussi déjà écrit à l'atelier. Tous les gens qui pensent libre en Russie, ils connaissent l'atelier. Ils savent que l'atelier peut aider. La chose c'est qui est très intéressante, c'est que quand j'étais 20 ans, j'ai adoré la France. C'était la période pas très longue, c'était court, mais j'ai lu beaucoup de la Mer Rouge, 68, Daniel Compendit, Guy Debord, etc., etc. J'ai lu beaucoup de cette histoire. J'ai lu Sartre, j'ai lu Camus, j'ai lu... Oui, c'était un peu un fan de la France. Mais après, j'ai oublié ça et j'étais une passion à l'Espagne. Et la Catalogne, la Barcelone, mais oui. Et j'ai habité à Catalogne pendant 2 ans, à Barcelone, et j'ai choisi ça.
J'ai une autre question. C'est pourquoi vous avez choisi de venir à France?
C'était une chose très spéciale. Je ne choisis pas la France parce que quand la Russie a commencé la guerre contre l'Ukraine, j'ai réalisé que j'ai besoin de quitter la Russie parce que je ne supporte pas la guerre, je ne supporte pas les choses que le régime de Poutine fait, je ne supporte rien. Aussi, c'était trop dangereux pour moi de rester en Russie. C'était très difficile de rester en Russie. Et j'ai commencé à chercher les possibilités de quitter la Russie dans les pays européens. pourquoi beaucoup d'activistes et artistes russes quittaient la Russie pour les pays qui sont très près à Russie, comme Géorgie, Arménie, etc., etc. Mais pour moi, je ne pense pas que cette décision est bonne. Parce que la police, le FSB, il fait les choses très mal dans les territoires. Ouais, par où c'est la situation très mal. Oui, et j'ai commencé à chercher la possibilité de venir à les pays d'Europe. Et après, j'ai découvert l'atelier. J'ai créé à l'atelier. C'était une vraie possibilité. Ils m'ont dit que oui, c'est possible. Nous pouvons faire le visa pour toi. Et...
C'était une très bonne question. Oui. C'était des bonnes relances aussi. Mm-hmm. Tu avais une autre question?
Pourquoi vous aimez travailler ici dans l'atelier des artistes en exil?
Oh, parce que j'aime l'esprit de l'atelier, c'est l'esprit horizontal, c'est l'esprit associatif, coopératif, c'est le communauté des artistes. L'esprit de partager, c'est très important pour moi et c'est aussi l'esprit pour la communication, pour la réflexion, les choses politiques, philosophie, etc., etc., avec les gens qui pensent pas la même manière que moi, mais très proche. Je ne sais pas le mot, mais c'est, en russe, c'est «единомышленник».
Vous connaissez? Les gens qui pensent le même chose, comme
oui. Qui ont la même opinion. Voilà.
Les gens qui avoir le même point de vue,
qui partagent ton intérêt, tes opinions.
Ouais, c'est ça.
Et
c'est
vous aimez, messieurs, on ne reste pas beaucoup de temps, donc merci beaucoup pour votre coopération. Votre histoire et votre art nous inspirent beaucoup. C'était très, très grand plaisir de vous parler. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour ce entretien. J'aime des questions parce que quand tu réponds à des questions, tu peux réfléchir ce que tu fais.
Merci beaucoup.
Merci.
Et bonne journée. Venez, rapprochez-vous tous pour que Ini puisse vous voir.
D'accord.
Okay. Avec Zaef. Mm-hmm. Venez, approchez-vous. Je pense qu'il y a un truc qui va vous parler, là.
Oui.
Approchez-vous.
Là, c'est l'endroit où les artistes apprennent le français pour qu'ils puissent, du coup, passer les examens et juste pouvoir s'exprimer avec les personnes au quotidien.
Voilà, il faut savoir qu'ici, on est presque tous passés par là. Parce que quand on arrive de chez nous, on ne parle pas forcément bien le français. Pour la plupart d'entre nous, donc, on vient se former ici. Même moi, je suis passé ici pour pouvoir améliorer un peu mon français. Voilà, donc, c'est un lieu où tout le monde passe, quoi.
Mais il y a des cours tous les jours?
Oui, tous les jours, il y a des cours. Ouais. C'est comme, vraiment, c'est le même cycle que le cycle scolaire de l'administration française.
Et c'est des cours qui sont gratuits?
Oui, sont gratuits, sont ouverts à tous les artistes qui sont membres de l'atelier.
Est-ce que vous avez tous compris ce qu'il fait comme discipline artistique?
Moi, je suis humoriste stand-upper. Je suis arrivé du Gabon, mais je ne suis pas gabonais d'origine. Je suis ivoirien, malien, burkinabé. Donc, j'ai quatre nationalités.
Pas mal. Vous nous battez.
Bon, moi qui suis artiste, je suis un exemple. Moi, je suis arrivé j'ai fait partie des premiers arrivés ici en 2017, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc en tant qu'artiste, ils ont mis à ma disposition des salles de répétition. Ils m'ont mis à ma disposition comme le secrétariat où je peux imprimer mes textes et les apprendre par cœur. Aussi, côté administratif, j'ai été accompagné côté médical pour voir des médecins. Et aussi pour les papiers aussi, parce qu'il faut savoir quand on arrive, on n'a pas de papiers, il faut les avoir. Et avant d'avoir les papiers, il faut trouver un endroit où dormir, il faut trouver un endroit où manger, ainsi de suite. Donc l'atelier nous aide aussi à ce niveau-là.
Donc ça, c'est les deux salles qu'on a pour la danse. Quand les artistes veulent les utiliser, ils les réservent et voilà, ils peuvent rester réserver plusieurs jours si besoin pour une résidence ou réserver quelques heures pour répéter. On a des artistes aussi qui donnent des cours de danse au public extérieur, donc ils viennent plusieurs fois par semaine pour danser ici.
On vous présente Daouda Nganga.
C'est un danseur congolais qui fait des chorégraphies.
Il parle français, Kituba, Lari, Lingala et Wolof.
Il mélange les danses de sa culture avec de la danse contemporaine pour créer ses propres danses.
Son style est unique.
Quel genre d'art pratiquez-vous ?
L'art que je pratique, je fais de la danse et du théâtre. Mais en vérité, quand j'ai commencé toute seule, avant, je me disais que je faisais l'afro-contemporain. Mais en France, il y a eu des gens qui m'ont vu, par exemple, au musée de l'histoire de l'immigration, quand j'ai fait mon solo. Ils m'ont dit, ce que tu fais, ce n'est pas seulement de l'afro-contemporain, mais par contre, c'est l'afro-cosmique contemporain. Et c'est vrai. D'accord. Ouais, c'est une vieille dame qui me l'avait dit. Donc, on fait fusion entre la danse contemporaine et la danse africaine, qui est afro. Et maintenant, au moment que j'arrive ici, comme je suis beaucoup plus dans les spectacles, dans le thème de transe, voilà, quand j'ai dansé, et la dame, elle a regardé le spectacle, et à la fin, c'est elle qui a fait ces rajouts-là. Ce que tu fais, c'est lié avec le cosmos.
Vous préférez travailler seul ou avec quelqu'un d'autre?
J'ai commencé avant dans la danse avec beaucoup de gens. Beaucoup de monde, mais après un certain moment, dans les années 2000, je me suis retrouvé seul. Et là, soudain, j'ai vu quelqu'un qui venait de l'Afrique du Sud qui faisait un one-man show, donc un solo de théâtre. Et ça m'a donné l'inspiration de pouvoir faire un solo de danse. Et c'est là où j'ai commencé à inventer un peu mes choses toute seule. J'ai dansé donc, en fait, je pourrais dire en Afrique, à l'époque, il n'y avait pas de solo, donc je pourrais être le premier pionnier pour s'engager à faire ces danses contemporaines en one-man show.
Pourquoi vous avez déménagé en France ?
Ben, c'est pour des raisons politiques notamment, tu vois. Moi, je viens du Congo, il y a eu un certain moment, chez moi, il n'y a pas eu de calme. Donc, quand je suis arrivé en France, ben voilà, pour un festival, là où j'ai décidé, ok, comme la France, c'est le pays des droits de l'homme, je vais rester là, voilà.
Quelles étaient vos difficultés lors de votre arrivée en France ?
Ben, c'est comme dans tous les pays, quand tu ne connais pas des gens, quand tu arrives au tout début en France, ben évidemment, on a toujours des problèmes. Déjà, ici, quand tu es là, autant qu'artiste, si tu n'es pas avec une association, tu ne peux pas vraiment faire ton art. Donc, il y en a d'autres, c'est pour ça qu'on dit souvent, Paris, c'est comme une tombe, quoi, une cimetière, tu vois. Quand tu arrives ici, tu n'as pas des gens qui vont te coacher, tu as un talent, tu ne parles pas avec des gens, ben, c'est mort, quoi. Mais, par exemple, avec la télé des artistes en exil, moi, je suis arrivé en 2016, il y en a d'autres qui rêvent peut-être jouer dans de grandes salles, mais moi j'ai eu cette chance-là et grâce à cet atelier. La télé des artistes en exil, pour moi, c'est la France. Donc, quand on dit l'accueil, l'hospitalité, en France, peut-être dans d'autres coins, je n'ai pas vu, mais avec la télé des artistes, vraiment à 100%.
Quelle langue parlez-vous entre vous dans l'atelier ?
Dans la télé des artistes en exil, c'est le monde entier. C'est beaucoup de langues qui sont là. Donc, ben, moi, je ne parle pas, par exemple, en anglais, mais deux fois, je fais un peu comme la langue des sourds. Je m'entends bien avec tout le monde qui sont là, même s'ils parlent russe, je ne comprends pas russe. Ben voilà. Au moment que ça sourit, c'est une communication. Quand ça sourit, il y a le sourire, ça va.
Quel conseil vous pouvez-vous donner aux artistes qui veulent déménager dans un autre pays ?
Ben, ça dépend, mais c'est bien quand même d'aller. Tu vois, on a tous peur. Ah non, mais si je pars là-bas, comment ça va aller? Ben, des doutes, tu vois, ben, ils sont que des déchets de la pensée. Il faut aller voir d'abord. Ouais, on a le droit de bouger partout dans le monde entier, comme des oiseaux. C'est ça.
En fait, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Là, pour le moment, on a deux artistes. Ouais, allez-y. On a Magloire qui est congolais, qui fait de la photographie. Et Ismat qui est tunisien, lui il fait beaucoup de street art, graffiti, tatouage aussi, il est tatoueur.
Magloire Mpaka est un photographe qui vient du Congo.
C'est un grand homme qui est très sympa, passionné et avenant.
Il s'intéresse à l'histoire de la colonisation du Congo par la Belgique et à l'immigration.
Avant d'être photographe, il étudiait la biochimie, c'est pour on n'aimait pas le métier d'artiste.
Ok.
Que représente votre art pour vous?
Moi, je travaille sur la problématique culturelle, bien sûr, l'héritage culturel colonial. Normalement, je fais un travail qui est tellement purement politique. Pour moi, au Congo, lorsqu'on parle de la colonisation, lorsqu'on évoque un problème de la colonisation, il n'y a que de grandes lignes qui sont dites par rapport à la colonisation. On sait que le Congo était une colonie belge, mais il y a moins de gens qui savent que le Congo était une entreprise coloniale qui appartenait au roi belge. Et c'était le secrétaire du roi qui dirigeait le Congo en distance avec la colonisation, avec l'administration belge, parce que je parle d'une pyramide, d'une trinité coloniale. Il y avait le roi qui était au-dessus, en haut de la pyramide, et à côté, il y avait l'administration belge, et à côté, il y avait l'église, le missionnaire, que le missionnaire était tel au centre, il y avait la population, et c'était le roi qui donnait des injonctions à son secrétaire. Le secrétaire donnait à l'administration donnait aux religieux ou bien aux missionnaires de l'église, et l'église transmettait tout à la population. Il y avait presque tout. C'est pour ça que je fais un discours qui est ironique sur mes travaux. C'est bien de voir ça et comprendre. Si je dis ça, c'est un peu vaste.
Quand vous arrivez à Paris?
Ça fait 2 ans que je suis à Paris. Je suis resté ici pour suivre presque tout ce qui était impossible chez moi. Là, je suis en France pour des soins médicaux.
Comment avez-vous découvert l'atelier des artistes en exil?
Comment j'ai découvert cet atelier des artistes en exil? C'est grâce à mes amis qui, lorsque je suis arrivé en France, parce que j'étais tout le temps, je travaille là où j'ai loué une chambre, je travaillais là, et mes amis m'ont dit il faut venir s'inscrire dans cet espace pour travailler comme une atelier.
Pourquoi êtes-vous devenu artiste?
Le pourquoi je suis artiste. C'est un très long chemin, et je suis né dans un quartier qui était un quartier qui avait pas mal de studios photo. C'est parmi de quartiers qui étaient fondés avant l'indépendance, que c'était un quartier qui avait pas mal de terrasses et bars. Kassavoub, c'était non loin de la commune de Kalamu. Pourquoi je parle de ce quartier? La plupart, quand on parle de la rumba congolaise, quand on parle de beaucoup de musiciens, c'était un quartier mère, qu'il y avait beaucoup l'ambiance. Il y avait Kalamu, il y avait Bandalunga, il y avait Kassavoub. C'était un quartier qui a fait beaucoup des artistes musiciens ou des artistes peintres. Et on me disait tout le temps, il faut aller faire l'académie. Déjà, c'était un obstacle énorme dans ma famille de faire l'académie, parce qu'il y avait des gens qui étaient des docteurs, qui étaient des militaires haut gradés. C'était inconcevable. Et je suis allé faire la biochimie. Pour moi, je considère la biochimie comme une partie de l'art, parce que c'était une étude de l'être humain. Même le corps, c'est une structure de la société. Et je fais la biochimie, je me suis encore retourné à l'académie, à l'université. J'ai commencé à faire la communication. C'est là où j'ai eu une conscience. Il faut que je sois artiste, mais j'étais tout le temps dans des agences en conseil publicitaire et événementiel. En 2017, je postulais pour le jeu de la francophonie, et j'étais retenu parmi le millier de photographes. J'étais parmi le 23 sélectionnés du jeu de la francophonie. Et grâce au jeu de la francophonie, j'ai compris qu'il faut que je commence à m'inscrire sur l'art. Pour moi, le jeu de la francophonie, c'était une grande boulevard, une porte, une grande entrée dans l'art. Et je ne me suis pas laissé... sur ça, je continue la route pour continuer à voir comment la route était destinée pour moi. Et là, jusqu'à présent, je suis artiste, comme tu m'as posé cette question, pour, c'est quoi Je suis artiste, je la cible maintenant, être artiste.
Merci, c'est fascinant.
Merci beaucoup.
Merci bien, c'était très intéressant et merci d'avoir répondu à nos questions et nous avoir donné votre temps. Et merci beaucoup. Bonne journée.
Ce podcast a été réalisé par
Guglielmo,
Alex,
Charlie,
Demir,
Denis,
Elodie,
Emir,
Haruki,
Isadora,
Joaquin,
Katia,
Kieran,
Lily,
Dimitri,
Marina,
Cyprien,
Madeleine,
Natalie,
Sneha,
Sol,
Stella,
Tuesday,
Yerjan,
Yeva,
Isabelle. Avec l'aide de Sylphée, Laure, Mouna et Ninon de l'association Transsonore, Carole comédienne, Yves et Robin metteurs en ondes, et bien sûr de notre professeur Madame Lemaire.